jour, de la question. D'où ça vient?
Qu'est-ce que ça va changer?
C'est pour qui?
À quoi ça sert?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravie de vous retrouver avec Charles Pélabon à la réalisation pour nous interroger sur le végétarisme aujourd'hui qui fait de plus en plus d'adeptes dans nos sociétés occidentalisées. Pourquoi? Quel est le rôle de l'industrialisation de l'élevage? De ses conséquences? Peut-on parler d'une révolution végétarienne? Cette prise de conscience de la condition animale est-elle récente ou prend-elle sa source dans de plus anciennes querelles philosophiques? Et si ce débat autour du végétarisme portait moins sur les animaux ou sur l'alimentation que sur l'espèce humaine? Devoirs, ses prérogatives et ses choix éthiques, comme nous le laissent entrevoir nos invités, le chercheur Ronan Larue, qui a travaillé sur le végétarisme des Lumières, et l'historien des sciences Thomas Lepelletier sur la révolution végétarienne, autour de la question « Pourquoi le végétarisme ?» Bienvenue. Bonjour Ronan Larue.
Bonjour.
Merci d'être venu de Montréal pour être en direct avec nous. Vous êtes agrégé en lettres modernes, actuellement chercheur postdoctoral à l'Université de Montréal, où vous enseignez la littérature française. Vous êtes l'auteur d'une anthologie sur les pensées végétariennes de Voltaire, et vous venez de publier aux presses universitaires de France « Le végétarisme et ses ennemis, 25 siècles de débats ». Cela fait 25 siècles que le végétarisme pose question aux philosophes, Ronan Larue.
Oui, effectivement, depuis que Pythagore, depuis que les orphiques ont commencé à prêcher le végétarisme et le respect qu'on devrait avoir aux animaux, eh bien, on a aussi en même temps des contre-arguments du point de vue des carnistes, ceux qui consomment de la viande. Et ces débats, c'est ce que j'essaie de retracer dans mon livre, existent depuis 25 siècles, effectivement. Toute l'Antiquité est passionnée par ces questions. Au Moyen-Âge aussi, ça revient, mais c'est encore plus fort à partir du XVIIIe siècle jusqu'à aujourd'hui, où les débats semblent être vraiment devenus intenses. Voilà.
On va donc revenir sur tous ces débats d'hier à aujourd'hui, voir aussi pourquoi justement ils sont plus intenses ou revivifiés justement aujourd'hui avec vous, Thomas Lepelletier. Bonjour.
Bonjour.
Alors merci d'être venu de Grande-Bretagne. Vous êtes basé à Oxford, vous êtes chercheur indépendant, historien et philosophe des sciences, auteur notamment d'un essai sur Darwin hérétique, mais aussi sur les univers parallèles. C'est pourtant ni de l'évolution ni de cosmologie que vous êtes venu nous parler aujourd'hui, mais de la révolution végétarienne. C'est le titre de votre essai d'éthique animal, paru aux éditions de sciences humaines Accent Aigu. La révolution végétarienne est en marche, vous l'appelez en tout cas de vos voeux, Thomas Lepelletier. On peut dire que vous êtes un chercheur engagé dans cette révolution que vous dites d'abord culturelle.
Alors c'est une révolution culturelle au sens où elle implique une transformation de nos modes alimentaires, mais c'est aussi une transformation politique qui doit déboucher sur des prises de des décisions politiques très fortes comme l'abolition des abattoirs, l'abolition de la chasse ou l'abolition de la pêche. Donc c'est bien sûr un sujet où il est difficile d'être neutre, et quelque part quand on se lance dans ce sujet, on se sent un peu interpellé et obligé de prendre position. Et finalement, donc moi en commençant, en étudiant cette thématique, je dirais d'une manière très intellectuelle au départ, j'ai été obligé de me positionner moi-même. Et voilà, dans ce sens-là, je suis un chercheur, comme vous l'étiez, engagé.
Alors, nous sommes donc, amis auditeurs, vous l'avez compris, en compagnie de chercheurs engagés pour une éthique animale et humaine qui reste à construire. Autour de la question pourquoi le végétarisme, nous allons essayer, sans parti pris de notre côté du moins, de commencer par quelques pistes de réflexion sonore avec le mix Veg de Charles Pélabon.
Ils ne mangent pas de viande, parfois pas de lait, pas d'œufs, pas de beurre, pas de miel. Ils l'ont exclu de leur alimentation. Les premiers sont végétariens, les seconds végétaliens.
Oh, on en a des légumes, des carottes, puis des navots et des betteraves, puis des poireaux. Oh oui, on en a des bons choux, des patates, puis des tomates, on en a des roues, des ventes.
Moi, je préfère manger de la viande.
Alors, viande ou pas viande?
Les grands élevages industriels, souvent entièrement mécanisés, nous montrent jusqu'où nous sommes capables d'aller dans la soumission de la nature aux besoins des hommes.
La question, c'est est-ce que les humains se sentent encore en prise avec la nature, ou est-ce qu'ils croient qu'ils s'en sont totalement abstraits?
C'est quoi ça? C'est de la blanquette, ça, hein?
On ne tue pas des animaux.
On se soucie de leur bien-être en bafouant leur droit le plus élémentaire, celui de vivre.
Aujourd'hui, de nombreux chercheurs savent que les animaux sont nettement plus intelligents que ce que l'on croyait.
Tant que les hommes massacreront les animaux, ils s'entretueront.
Qui c'est qui a dit ça?
C'est Pythagore.
Adopter un régime végétarien, cela semble une évidence en raison du concept fondamental de la non-violence.
Tu ne tueras pas, ça veut dire quoi? Est-ce que vous croyez que c'était que pour les êtres humains?
J'en ai marre.
La viande, c'est bon. Et je m'en fous de savoir si les animaux meurent.
L'industrie de la viande pollue et produit autant de gaz à effet de serre que le transport.
On sait en plus que la production de viande ne peut pas couvrir les besoins de la population mondiale en hausse permanente. Il faut trouver une autre source de protéines.
Sommes-nous faits pour être végétariens ?
Je peux pas manger ça, je peux pas manger un pauvre petit agneau.
Ressaisis-toi, Lisa, c'est de l'agneau, pas un agneau.
Le plus emmerdant, quand tu es végétarien, c'est le regard des autres.
T'en as pas marre de bouffer des graines et des racines ?
Y avait-il des végétariens ou des végétaliens, autant des chasseurs-cueilleurs ?
Pourquoi devenir végétarien? Autour de la question pourquoi le végétarisme? On découvre donc dans votre ouvrage, Renan Larue, Le végétarisme, ses ennemis, 25 siècles de débats au PUF, que ce débat ne date pas d'hier, on l'a presque entendu dans le mix, on n'a pas entendu la voix de Pythagore tout de même, mais Pythagore, tout de suite, s'est positionné, lui, dans ce débat-là.
Alors, Pythagore, c'est un tout petit peu plus compliqué que ça, parce qu'on a beaucoup de témoignages sur lui, on a très peu de choses de sa main, on va dire, tous les témoignages convergent à peu près autour de trois choses. Les pythagoriciens et Pythagore croiraient en la réincarnation, c'est-à-dire que tuer un animal, manger un animal, ce serait un acte de cannibalisme, parce qu'il est possible que l'âme d'un parent décédé ou d'un parent éloigné, etc., puisse se réincarner dans un animal que l'on mange. Ça, c'est une première raison. Une autre raison, c'est la question de la souillure. Il est impur de consommer le corps ou le sang d'un animal. Puis la troisième raison, qui est celle qu'on retrouve le plus systématiquement. Hein, les deux premières existent, mais la troisième est plus répandue, c'est le respect que l'on doit aux animaux. Les animaux sont sensibles. Ils ont l'intelligence et les faire souffrir, les tuer est une abomination pour les pythagoriciens.
Et ce sont ces trois arguments-là qu'on va retrouver, même si on le sait pas tellement, dans la philosophie au cours des siècles, c'est-à-dire autant dans l'Antiquité grecque qu'au Moyen-Âge, puis à la Renaissance de nouveau.
Oui, alors la métempsychose, effectivement, la réincarnation, on a cet argument a tendance à disparaître. Mais cette question du respect pour l'animal, la compassion pour l'animal, ça traverse vraiment tous les siècles jusqu'à aujourd'hui. C'est vraiment une constante très claire du discours des végétariens et des véganes. Voilà, ça c'est sûr.
Aujourd'hui, mais il y a aussi un discours, vous dites aussi, il y a un de vos chapitres qui s'intitule « Dieu omnivore ouais. ». Hein, dans la Bible, on pense notamment au rite juif très précis de la cacheroute. Oui. Il y a des rites quand on consomme de la viande et la question du sacrifice quand même tout de suite de l'animal qui est posée aussi.
Oui, alors effectivement, le Dieu des Juifs réclame des sacrifices et en même temps, à d'autres endroits, il y a toute une critique du sacrifice qui est formulée par les mêmes prophètes juifs. Donc c'est assez, du point de vue, le judaïsme est assez complexe. Donc certes, Dieu réclame des sacrifices et en même temps, Dieu demande des tas de petites choses. Il demande que celui, l'abatteur, le sacrificateur, doit respecter l'animal. La lame doit normalement être la plus fine possible pour faire souffrir le moins possible l'animal. Dans le judaïsme, on a plein de petites règles qui montrent que Dieu est quand même soucieux du sort des animaux. Et ça change, me semble-t-il, avec le christianisme, puisqu'en sortant du judaïsme, on va abandonner ce respect dû aux animaux. Et il est, pour les chrétiens, interdit d'interdire un aliment. C'est-à-dire qu'on peut consommer des animaux qui ont été castrés pour être gavés. Ça, c'est interdit dans le judaïsme. Il y a des tas de choses qui sont permises dans le christianisme, puisque plusieurs évangélistes, saint Paul, expliquent que ce n'est pas ce qu'on mange qui pose problème, mais c'est ce qui sort de la bouche, c'est ce qui est expliqué. C'est-à-dire les controverses. Si je blesse mon prochain, là, c'est un problème. Mais si je mange un animal ou je mange pas d'animal, etc., ça n'entre en aucun cas dans les problèmes du salut. Donc on peut faire souffrir un animal, on peut manger des animaux, Dieu s'en moque, c'est pas ça qui compte pour un chrétien.
On se rend compte tout de suite, hein, aussi, Thomas Le Pelletier, que ces débats, ils sont toujours dans des ambiguïtés. Il y a beaucoup de choses qui sont soulevées derrière. Est-ce qu'on a le droit de tuer? Quelle position l'homme a par rapport à l'animal? Tout de suite, ce sont ces grandes questions-là qui sont soulevées.
Je pense, oui, il y a des grandes questions, mais il n'y a pas d'ambiguïté, ou il n'y a pas autant d'ambiguïté qu'on voudrait le faire croire. Je pense que la position de la plupart des individus, bon, si on prend à notre époque, est relativement claire. La plupart des gens ne veulent pas tuer les animaux, ils ne veulent pas voir des animaux se faire tuer, ils ne veulent pas voir des animaux souffrir. Donc si on continue à notre époque à manger de la viande ou à manger des produits d'origine animale, c'est parce que la société a fait en sorte que ces mises à mort ne sont pas visibles. Donc on perpétue ce régime alimentaire en l'excluant de notre vision. Mais si on est confronté à la situation, je pense qu'il n'y a pas d'ambiguïté. La plupart des gens vont dire non, je ne veux pas tuer cet animal, je ne veux pas tuer ou faire souffrir
Alors, pas d'ambiguïté chez les gens, mais ambiguïté tout de même dans ces questions philosophiques ou dans ce débat philosophique ou dans ces querelles. C'est jusqu'où, quelle est la place de l'homme, jusqu'où il peut aller, quelle place on donne aux animaux. C'est quand même ça qui revient dans tous les débats philosophiques, Renan Larue.
Oui, il me semble que dans ces nombreux débats, dans ces débats très anciens autour du végétarisme, il y a la question de l'animal, évidemment, qui est très très importante, mais il y a aussi la question de l'être humain. Est-ce que Dieu, par exemple, nous a donné les animaux comme de la nourriture? Est-ce que la nature en général est faite pour nous? Quelle est la différence ontologique, c'est-à-dire est-ce qu'il y a une différence d'essence entre l'animal et l'être humain? Alors oui, non, et si oui, qu'est-ce qui nous distingue d'eux? Est-ce que c'est la raison? Est-ce que c'est l'âme? Ce genre de choses. Bon, sur l'âme, c'est difficile à trancher, mais sur la question de la raison, c'est un vieux débat qui était avancé par les, enfin, un vieil argument avancé par les pythagoriciens, c'est que, notamment Porphyre, c'est que les animaux ont une raison embryonnaire. Ils ont moins de raison que nous, mais ils en ont quand même. Voilà.
Toutes les questions que soulève, hein, cette question, pourquoi le végétarisme, ben, nous, on va l'aborder en musique et avec un peu d'irrévérence et de malice. Je suis bio sur RFI, Marie Dauphin.
Je suis bio. Je mange des graines germées. Paraît que c'est bon pour la santé. Des oligo-éléments, de l'or, du cuivre et de l'argent. Je suis bio. Je bois du thé vert. Paraît que c'est bon pour les artères. Je fais du vélo régulièrement. On boit de vin saine par tous les temps. Mais quand je descends chez ma grand-mère à Marvejean en Lozère, je sens mon côté animal qui s'en va. À moi le confit, le foie gras, les pommes de terre sautées à la graisse d'oie, et l'étrange pâté que je mange avec les doigts, le poudin aux oignons et les tripes aux oignons, au lardon et la crème de marron et le petit mouton. C'est bon. Mais quand je remonte à la capitale, je me fais un pâté végétal. Un petit drainage lymphatique. Je reprends mes cours de gymnastique. Je suis bio. Je ne mange pas trop vite. Paraît que c'est bon pour le transit. Je fais mes lessives à l'huile de lin, à l'huile d'olive. Je fais mes shampoings, je suis bio. Je cuis à la vapeur mes brocolis et mes choux-fleurs. Je fais du yoga régulièrement. J'ai fait des stages avec un prof charmant. Il est zen, délicat.
Je suis bio, Marie Dauphin sur RFI, autour de la question pourquoi le végétarisme, au-delà de la mode bio ou bobo, nous nous interrogeons avec Renan Larue et Thomas Le Pelletier, nos invités de chercheurs engagés pour une éthique animale et humaine, avec tout de suite un nouvel éclairage, vu d'ailleurs, vu par la primatologue Sabrina Krief, qui renvoie sur l'ambiguïté de cette question du végétarisme avec un double éclairage, à la fois sur l'absolue nécessité de protéger les grands singes et notamment d'interdire la consommation de cette viande de brousse-là, mais aussi sur les conséquences néfastes d'un régime chimpanzé tout cru pour nous les humains. On écoute Sabrina Krief et vous réagirez, messieurs, ensuite.
Les grands singes font très souvent partie des animaux boucanés, des singes boucanés. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est partout interdit de chasser et de consommer et de vendre des grands singes sous forme de viande ou même sous forme vivante. Et donc, évidemment, on n'interdit pas, on ne pense pas à interdire la consommation de viande de brousse en général. Mais l'idée est d'essayer d'orienter les choix vers du gibier qui est abondant. La disparition des grands singes est vraiment aujourd'hui en question. Essayer d'orienter vers des viandes qui soient moins impactantes pour l'écologie, parce que les chimpanzés ont un rôle important dans la forêt. Ils disséminent des graines de fruits que d'autres animaux ne vont pas consommer. Donc si on perd les grands singes, on va perdre une partie des forêts tropicales et la diversité des forêts tropicales. L'autre aspect qui m'intéresse, c'est la question, sommes-nous faits pour être végétariens et peut-on, à partir du régime alimentaire des chimpanzés, déduire des choses sur le régime alimentaire des premiers hommes? Aujourd'hui, on entend de plus en plus de personnes qui deviennent adeptes d'un paléolithique paléo-diète, donc d'un régime alimentaire ancestral, en prenant comme argument justement que les premiers humains ne cuisaient pas, par exemple, leurs aliments, ne consommaient pas forcément de lait ou encore de farine, et utilisent parfois les chimpanzés, le régime alimentaire des chimpanzés, pour justifier ce type de régime. Donc, les chimpanzés sont frugivores principalement, mangent des tiges, des écorces, mais ils consomment aussi de la viande. Quand ils consomment de la viande, ils y ajoutent toujours des éléments végétaux qu'ils mastiquent. Mais un chimpanzé n'est pas un humain. Ils ont un système digestif assez proche, mais le chimpanzé va passer sa journée à chercher et à manger parce que son alimentation n'est pas assez nutritive. Ce qu'il faut savoir, c'est que les humains qui ont essayé des régimes alimentaires ancestraux ou type chimpanzé ont des conséquences très négatives sur leur physiologie et sur leur organisme. Les femmes n'ont plus de règles. Il y a une aménorrhée très rapide. Elles perdent 7 à 8 kilos en à peine un an. Donc nous ne sommes pas faits pour manger comme des chimpanzés. Et la crudivorie, si elle apporte des bénéfices parce qu'elle permet d'avoir les propriétés médicinales de certaines plantes, ne doit pas être une généralité.
Ne surtout pas généraliser le régime cru et frugivore des chimpanzés. Vous partagez l'opinion finalement de la primatologue Sabrina Krief, Thomas Lepetit, parce que c'est pas ce régime-là que vous...
Non, c'est pas du tout ce régime-là, mais la situation est complètement différente. Le véganisme ou le végétalisme s'adresse à des sociétés relativement développées qui disposent d'une alimentation très riche, où là, la question, maintenant, ils ont une question de choix se pose, puisqu'ils ont de toute façon des produits d'origine végétale qui leur apportent tous les nutriments dont ils ont besoin. Ils n'ont plus besoin de viande. Nous ne sommes pas du tout dans la situation des grands singes qui sont dans la forêt vierge, qui déjà ne connaissent pas la cuisson, qui est quelque chose de très important pour transformer les aliments. Donc la question du végétalisme se pose à nos sociétés qui sont développées et qui ont le choix.
Et donc elle se pose à nos sociétés à la fois qui sont développées, qui sont industrielles et qui ont de quoi se nourrir, et en même temps où on a un esprit et un cerveau aussi qui est fait pour réfléchir et pour être en accord avec ses principes, c'est ça que vous
tout
nous
fait,
dites.
Tout à fait, et les principes nous poussent, c'est ce que j'essaye de montrer dans mon livre, mais le livre de Ronan Larue aussi montre ça, c'est que 2500 ans de débat débouchent finalement sur une position éthique qui est celle de si on n'a pas besoin de tuer son prochain, pourquoi le tuer ? Et à partir du moment où on est dans cette situation de choix, et ben autant se tourner vers une alimentation végétale qui, justement, elle, ne demande pas à ce qu'on tue son prochain pour s'alimenter.
Alors, quand vous dites une alimentation végétale, vous avez prononcé des mots, végétarien, il y a aussi vegan, c'est pas tout à fait la même chose,
oui,
végétalien.
Alors, le végétarien, c'est celui qui s'interdit ou qui ne mange pas de chair animale, que ce soit de la viande ou du poisson. Le végétalien, c'est celui qui ne mange pas donc de chair animale aussi et de produits d'origine animale. Alors, on inclut en particulier les œufs et le lait. Donc, ils ne mangent pas de lait et de viande.
Voilà, ça, c'est radical pour partager un repas dans le monde avec d'autres personnes qui ne sont ni végétariennes ni végétaliennes. Ça devient un peu compliqué.
Radical, je dirais pas radical le mot. Je dirais plutôt c'est cohérent par rapport à l'éthique. Si on ne veut pas faire souffrir les animaux juste pour notre plaisir, si on ne veut pas les tuer juste pour notre plaisir, et ben à ce moment-là, on ne peut pas les exploiter, puisque toute exploitation des animaux pour obtenir des œufs ou du lait débouche de toute façon sur leur mort. Donc si on veut être cohérent avec cette idée toute simple de ne pas vouloir faire souffrir les animaux pour notre plaisir, on ne consomme plus de produits d'origine animale. Donc c'est pas radical, c'est une révolution, mais c'est plutôt que radical, c'est même la position éthique minimale que l'on devrait adopter. Et c'est la position éthique ce qui est la position, je dirais, logique par rapport aux idées qu'on a, aux idées éthiques de base que l'on a presque tous.
Presque tous en 2014. Aujourd'hui, sur la planète, autour de la question pourquoi le végétarisme, on continue en tout cas de s'interroger ensemble dans 3 minutes, juste après le flash d'info. À tout de suite.
Caroline Lachowski.
Bienvenue à vous qui nous rejoignez pour cette deuxième partie autour de la question pourquoi le végétarisme, en compagnie de nos invités, Renan Larue, chercheur à l'Université de Montréal, qui vient de publier aux Presses universitaires de France Le végétarisme et ses ennemis, 25 siècles de débats, et Thomas Lepelletier, philosophe et historien des sciences, auteur engagé de la révolution végétarienne aux éditions de sciences humaines Accent Aigu, comment mettre en perspective ce phénomène végétarien et les questions qui nous renvoient d'hier jusqu'à aujourd'hui dans nos sociétés de consommation industrielle. Écoutons le géographe Gilles Fumet, l'un des auteurs de l'Atlas Global.
Le végétarisme aujourd'hui est lié d'abord à la nouvelle sensibilité vis-à-vis de l'animal. Une nouvelle sensibilité qui a été provoquée par l'usage d'une production de viande par industrialisation de la filière. Donc là, il y a eu vraiment quelque chose qui a changé et qui a fait découvrir la souffrance animale et contre lesquelles donc un certain nombre de personnes militent par le végétarisme. Et puis il y a l'autre aspect qui est, je dirais, plus nutritionnel, qui est donc la question qu'on pose de savoir si manger de la viande finalement c'est bon à la santé, indépendamment des aspects environnementaux. Et là, il y a une réponse qui est très claire, c'est que les nutritionnistes expliquent que la consommation de viande peut très facilement diminuer sans altérer quoi que ce soit le bilan nutritionnel de l'alimentation humaine.
Réagir à cet éclairage du géographe Gilles Fumet sur cette nouvelle sensibilité vis-à-vis de l'animal.
Je dirais, il a raison, mais au sens, lui, il l'a fait débuter à l'industrialisation de la production animalière. Mais je dirais, il faut remonter même un peu plus loin. On peut remonter sans problème au XVIIIe siècle. À partir de là, on assiste à vraiment une évolution des sensibilités. On commence à ne plus aimer voir la mise à mort des animaux. Au début du XIXe siècle, les abattoirs de Paris on déplace les abattoirs, la façon on les met à l'extérieur de la ville, puisque les citoyens n'aiment plus voir la mise à mort. Et c'est à partir du XIXe siècle qu'on voit les premières sociétés de protection des animaux se mettre en place. Donc là, il y a vraiment un long processus, ou long, ça dépend, au moins sur deux siècles, un processus d'évolution des sensibilités où on aime de moins en moins voir la cruauté à l'encontre des animaux. Et nous sommes bien sûr dans ce processus qui continue, on aime de moins en moins voir cette cruauté s'exercer.
Donc un processus qui remonte, hein, c'est ce que vous mettez en lumière aussi, Renan Larue, qui remonte aux lumières. À l'époque des Lumières, aux philosophes des Lumières.
En fait, on a toujours été quand même sensible à la souffrance animale, ou il y a toujours eu dans nos sociétés occidentales des gens sensibles à la souffrance animale. Mais effectivement, en Angleterre, dans la seconde moitié du XVIIe siècle, et puis c'est ce que disait Thomas Lepelletier tout à l'heure, à l'instant, au XVIIIe siècle. Donc effectivement, il y a une sensibilité. Et c'est ça qui est amusant, c'est que la sensibilité a fait qu'on ne voulait plus voir ce qu'on appelait les tueries, c'est-à-dire les lieux où on tue les animaux. Parce qu'à Paris, surtout, il y avait des rues, des quartiers réservés aux abattoirs, mais c'était pas des abattoirs, c'était les bouchers qui faisaient eux-mêmes le travail. Donc il y avait des rivières de sang dans les rues, l'été, ça dégageait des odeurs épouvantables, puis il y avait les hurlements des animaux. Donc effectivement, début du XIXe siècle, création des abattoirs hors de Paris, et là, un mur opaque, entre le consommateur de viande et celui qui tue les animaux.
Entre l'homme et celui qui tue les animaux, et en même temps, la frontière entre l'homme et l'animal, elle est remise en question par les philosophes des Lumières, elle est remise en question aussi aujourd'hui par les découvertes des scientifiques qui nous disent, d'abord, nous sommes tous des animaux, et qu'il y a des frontières sont de plus en plus floues entre les deux.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que on ne les voit plus mourir. Il y a cette frontière-là. Bon, je reviens là-dessus. C'est que je pense que le fait qu'on ne voit plus l'abattage a développé considérablement nos sensibilités. Donc en fait, c'est une espèce de paradoxe. On ne voit plus l'animal souffrir parce que il souffre derrière les murs de l'abattoir, derrière les murs de l'élevage. On devient extrêmement sensible. Et à partir du moment où, dans nos sociétés très sensibles, on comprend ce qui se passe derrière les murs de l'abattoir, voilà, à mon avis, ça crée un gros déclic, d'où le succès de plus en plus fort du végétarisme et du véganisme. En ce qui concerne la frontière entre l'homme et l'animal, effectivement, au XVIIIe siècle surtout, mais dans l'Antiquité on retrouve déjà ça, au XVIIIe siècle, on met vraiment en cause cette idée qu'il y aurait un fossé énorme, radical, ontologique, ce que j'ai dit tout à l'heure, entre l'animal et l'être humain. Certains philosophes vont considérer que la différence entre eux et nous n'est pas de nature, elle est simplement de degré. Nous avons plus de rationalité, nous avons un langage plus fins, plus développés. Mais les animaux ont un langage, les animaux communiquent entre eux. Les récents travaux des éthologues montrent que les animaux ont une protoculture, voire ont un langage. Certains dauphins, par exemple, ont des noms. Ils ont ce qu'on appelle une signature vocale, c'est-à-dire qu'ils s'appellent par leur nom. Donc en fait, depuis les travaux des éthologues des années 70, 80, 90, tout ce qui faisait la différence entre l'homme et l'animal est en train, doucement mais sûrement, de s'écrouler. Et à mon avis, ça pose des questions éthiques. Quelle conclusion doit-on tirer de cette fin de barrière entre l'homme et l'animal ?
Alors, il y en a qui ont tiré ces conclusions assez tôt, si j'ose dire. C'est quoi ? C'est dans les années 70, aux États-Unis, les grands mouvements de libération animale, notamment Peter Singer, qui a donné naissance d'ailleurs au végétarisme et au véganisme.
Effectivement. Alors, Peter Singer est australien. Il a découvert le végétarisme, le véganisme quand il était en Angleterre. Il a fait ses études à Oxford. Et il a écrit ce livre extrêmement important pour le mouvement de défense des animaux, c'est Libération animale, en 75. Et à partir de là, le mouvement a eu une espèce de bible, en tout cas de texte de référence. Il s'est construit à partir des travaux de Peter Singer, mais il a donné lieu, ce livre-là, à beaucoup, beaucoup de débats. Et l'éthique animale s'est considérablement développée. Alors on se rend moins compte en France. Vous disiez que c'était radical d'être vegan en France, mais quand on va en Australie, quand on va en Nouvelle-Zélande, quand on va en Allemagne, en Angleterre, surtout aux États-Unis, au Canada, ça devient moins radical parce que la proportion de vegan est plus importante. Quand on se promène dans la rue, on trouve des restaurants végétariens ou vegan à peu près partout. Et donc en fait, l'écart qui nous paraît énorme aujourd'hui en France entre la diète normale et la diète vegan paraît forte, mais quand on va à New York, quand on va en Californie, quand on va à Montréal...
Donc dans ces pays développés et occidentalisés là, oui, il est tout à fait plus possible d'être vegan ou végétarien. Et c'est une éthique, c'est ce que vous disiez Thomas Lepelletier, c'est-à-dire que c'est un choix.
Oui, puisque nous avons le choix, pourquoi ne pas prendre ce choix? C'est ça la base du véganisme. Il y a aucune raison de continuer à, je dirais, massacrer les animaux, puisque nous les massacrons en grand nombre. Les chiffres sont hallucinants. Dans les secondes, chaque seconde qui s'écoule, là, par exemple, pendant qu'on est en train de parler, il y a à peu près 50 animaux qui sont tués en France. Ça fait que, au bout d'une minute, il va y en avoir plusieurs milliers. Dans l'heure de l'émission, il va y avoir à peu près en France 100 000 animaux tués dans les abattoirs en France.
Et loin de nos yeux,
en une journée, c'est 3 millions. 3 millions d'animaux vont être abattus aujourd'hui dans les abattoirs français. Alors, je ne parle pas du reste du monde. Sur l'année, ça fait à peu près 1 milliard. Donc nous avons des chiffres hallucinants. C'est un massacre à grande échelle qui ne répond à aucune nécessité. Vous voyez, là, vous voyez tout de suite la question éthique se pose. Pourquoi continuer à massacrer en si grand nombre les animaux quand nous n'en avons pas besoin? Surtout que les animaux, comme venait de dire Renan, nous nous apercevons qu'ils sont comme nous, d'une certaine manière. Ils ont un langage, ils ont une culture, ils ont des émotions, et tous les gens qui ont des animaux domestiques le savent très bien. On ne supporterait pas de faire subir à son chien ou à son chat, par exemple, ce que subissent les animaux dans les élevages. Donc, il y a une espèce d'incohérence. Pourquoi on pourrait trouver ça scandaleux de faire subir à son chien ce que l'on fait subir à des millions de cochons chaque jour en France.
Mais encore une fois, loin de nos yeux,
ce
qui
voilà.
peut aussi réveiller aussi, vous l'avez dit, on va y revenir, à notre sensibilité autour de la question pourquoi le végétarianisme. Je propose un nouvel éclairage, c'est celui d'un sociologue, il s'appelle Bertrand Hervieux, il est spécialiste du monde rural, nous l'avions reçu ici même autour d'un colloque des animaux et des hommes, héritage partagé, futur à construire, un colloque interdisciplinaire qu'il avait organisé. Écoutez son point de vue, qui n'est pas du tout le même que le vôtre, mais qui a le mérite de poser toutes les questions qui fâchent.
Il y a une vraie rupture qui s'est opérée, c'est incontestable, et je crois qu'il y a à cela deux grandes raisons. La première, c'est que dans nos sociétés, les éleveurs sont devenus une toute petite minorité. Nous nous sommes éloignés de tous ces animaux destinés à l'alimentation humaine. Les modalités d'élevage se sont complètement bouleversées, touchées par les processus d'industrialisation. Tous les chevaux avaient un nom, tous les vaches avaient un nom, les taureaux avaient un nom. Et maintenant, tout ceci est terminé. Il y a un processus d'abstraction, vous voyez, il y a un processus d'éloignement. L'animal a été en quelque sorte chosifié. Il est interchangeable, si vous voulez. Et deuxièmement,
deuxième chose, je crois très très importante, c'est que nous n'avons plus collectivement géré notre relation à la mort animale. C'est-à-dire que dans nos sociétés, nous assumions la mort animale, même si c'était le boucher du village. Mais ça ne veut pas dire que ça se passait bien, que c'était une mise à mort facile, douce. Non, non, il y avait de la violence. Mais cette violence, elle était collectivement assumée, elle était, je dirais même, partagée, elle était une relation à la mort qui était regardée en face. En fait, c'est-à-dire que par la mort et par cette mise à mort, on transformait l'animal en un aliment, on en faisait quelque chose. Mais je crois que dans la crise que nous traversons actuellement, dans la recherche que nous évoquons et qui est très difficile à énoncer et à construire, il y a la question de la mort. Or, la question de la mort, elle fait partie complètement de la relation entre les hommes et les animaux. Effectivement, si nous ne voulons plus assumer la mort animale, nous nous acheminerons vers un monde sans animaux, parce que si on ne le supporte pas. Donc la question est plutôt de savoir comment on gère cette mort dans le respect et dans les devoirs que nous avons à l'égard des animaux.
Respect et devoir envers les animaux, sur cette question de la mort, je crois que vous n'êtes pas du tout d'accord avec Bertrand Hervieux, Thomas Le Petit.
Non, j'avoue que j'ai du mal à comprendre pourquoi nous avons besoin d'avoir, ou que notre relation avec les animaux doit passer par leur mise à mort.
Des millénaires de relations, de
oui,
culture et d'interdépendance telles que celle-là.
Peut-être, mais des millénaires, effectivement, nous avons tué les animaux pendant des millénaires, mais est-ce une raison pour continuer? Je pense que maintenant, au contraire, nous devrions découvrir d'autres relations avec les animaux. Et de fait, je parlais tout à l'heure des animaux domestiques. Les gens ont des animaux domestiques. Leurs relations, qui sont très riches avec leurs animaux domestiques, ne passent pas par la mise à mort de leurs animaux domestiques. Je ne comprends pas pourquoi on a besoin de faire référence à cette notion de mise à mort. Et puis cette notion de respect. J'ai toujours du mal à comprendre cette notion de respect. Je ne vois pas quel respect il peut y avoir envers un animal dont on tranche la gorge. Et je pense qu'à partir du moment où il y a un élevage avec une exploitation des animaux pour en tirer de la nourriture, il ne peut pas y avoir de respect, puisque de toute façon on va
l'exploiter. Quelle que soit la taille de cet élevage, parce qu'il y a quand même, je pense, une différence entre élevage industriel, où les animaux sont des choses, et un élevage de plus petite taille, où l'éleveur a un rapport avec ses animaux.
Il est évident qu'il est préférable d'avoir ce qu'on appelle un élevage de petite taille, il n'y a pas de doute, c'est préférable pour l'animal.
Mais, et pour les hommes aussi, d'ailleurs.
Et pour les hommes aussi, tout à fait. Mais en même temps, c'est pas parce que c'est préférable que c'est bien. De toute façon, c'est toujours une exploitation qui passe par la mise à mort et où il y a beaucoup de souffrance aussi. Il faut pas quand même rêver. Il a bien parlé de la souffrance et de la violence. Mais on va quand même, au bout du compte, trancher la gorge de l'animal quand l'animal, souvent, est très jeune. Je ne vois pas quel respect il peut y avoir. Non, je crois que cette utilisation du mot respect, c'est une façon de se déculpabiliser. On dit qu'on respecte l'animal. Donc, ça donne l'impression que finalement notre comportement le comportement de l'éleveur n'a pas à être remis en cause. Or non, ça n'a pas de sens, ou du moins il faudra qu'on m'explique, de dire qu'on respecte un animal si on lui tranche la gorge. Vous appliquez ça aux humains. Comment imaginer qu'on puisse dire que quelqu'un respecte un autre être humain quand il est en train de lui trancher la gorge? Ça paraît complètement hallucinant. C'est un discours qui marche sur la tête. Alors, pourquoi quand on transpose ce discours-là aux animaux, ça aurait un sens? Donc, je pense que ce sont des mots qu'on met en avant pour se protéger, pour ne pas regarder la réalité en face. Ce mot respect, on le met en avant, mais en réalité, non, il n'y a aucun respect d'un éleveur qui tue un animal.
Alors, j'entends très bien votre point de vue, Thomas Le Pelletier. C'est peut-être aussi pour ne pas regarder que nous sommes, nous, les humains, je le disais, depuis des millénaires, dans des cultures où on partage des repas, des rites, des traditions, dans lesquelles on tue les animaux pour se nourrir. C'est aussi ça qui nous a fait hommes.
Tout à fait.
Mais oui, on peut changer, mais c'est ça qui nous a fait hommes.
Mais pendant des siècles aussi, il y a eu des sociétés esclavagistes. L'esclavage faisait partie de la société. Un jour, il a fallu dire non.
Donc vous dites, on en est à un moment charnière comme ça.
C'est exactement la même situation.
Il faut décider d'être cohérent avec ses idées et de ne pas faire aux animaux ce qu'on voudrait pas qu'on fasse.
On parle beaucoup de surtout ces jours-ci, c'est revenu liberté, égalité, fraternité. Bon, ce sont un peu des mots vides quand finalement on s'arrête à quelque part à un certain être. Liberté, égalité, fraternité en 1789, dans une société où il y avait encore l'esclavage, ça n'avait pas de sens. Liberté, fraternité, égalité et fraternité, à une époque où les femmes n'avaient pas de droit, ça n'avait pas de sens. Et maintenant, en 2015, liberté, égalité, fraternité, quand on massacre chaque jour en France 3 millions d'animaux, ce sont un peu des mots creux, puisqu'on interdit, on ne veut pas élargir le cercle de l'altruisme, le cercle de la compassion, à ces êtres qui vivent avec nous, qui sont dans nos sociétés, et on a décidé, parce qu'ils marchent à quatre pattes, parce qu'ils ont une pilosité plus développée, on a décidé de se donner tous les droits sur eux.
On ne veut pas élargir, Renan Larue, notre cercle de compassion. C'est compliqué aussi de l'élargir, ce cercle de compassion. Et vous disiez en même temps que quand on a éloigné les abattoirs des villes, au fond, on a à la fois caché la mort et en même temps augmenté notre sensibilité d'être humain.
Oui, exactement. On vit, il me semble, en pleine schizophrénie morale, c'est-à-dire qu'on est extrêmement sensible au malheur de nos animaux domestiques. On peut dépenser des fortunes pour soigner le cancer de notre chat ou de notre chien, et en même temps, disons, on participe activement à la mise à mort de très nombreux animaux. Donc ça, c'est assez étrange. Je voudrais juste revenir sur quelque chose qu'a dit Bertrand Vieux. Il a dit des choses justes. Il a dit effectivement le nombre d'éleveurs aujourd'hui en France a diminué spectaculairement. Ça représente quelques tout petit pourcentage
un
de la population.
Un tout petit pourcent de la population,
il me
semble, les éleveurs.
C'est tout petit. Et il a dit aussi quelque chose, effectivement, on n'assume plus aujourd'hui, c'est pas seulement en France, mais en Occident, sans doute ailleurs, on n'assume plus de tuer l'animal. Mais il me semble que du point de vue moral, qu'on assume ou qu'on n'assume pas le fait de tuer un animal ne change rien au fait. Enfin, ne change rien à la question éthique.
Vous dites qu'il faut se poser cette question-là.
Disons, si, au niveau de la sociologie, il a raison, mais si on déplace la question dans le champ de l'éthique, qu'on assume ou qu'on n'assume pas la mise à mort de milliards d'animaux par an, ne change rien au fait qu'ils souffrent et qu'ils sont tués. Voilà.
Autour de la question pourquoi le végétarisme, de nombreux artistes de par le monde se revendiquent et sont végétariens. Et même avec humour et tendresse, on écoute Norah Jones sur RFI, Man of the Hour.
It's him or me, that's what he said. But I can't choose between a vegan and a pothead, so I chose you because you're sweet and you give me lots of loving and you eat meat, and that's how you became my only man of the hour. You never lie, and you don't cheat, and you don't have any baggage tied to your four feet. Do I deserve to be the one who will feed you breakfast, lunch, and dinner, and take you to the park at dawn? Will you really be my only man of the hour? I know you'll never bring me flowers. Flowers, they will only die.
Dans la voix de Norah Jones sur RFI, autour de la question pourquoi le végétarisme, je vous propose tout de suite un dernier éclairage, c'est celui de l'historienne des sciences, Valérie Chansigaud.
Aujourd'hui, le végétarisme est devenu vraiment l'une des grandes questions, en fait, à la fois éthique et environnementale de nos sociétés. On ne peut pas pas avec une augmentation tellement importante de la population humaine, imaginer que les modèles de vie qu'on avait jusqu'ici, qui faisaient une part absolument délirante, et on le voit avec les pays émergents, à la consommation de viande, pourrait aboutir sur un monde équitable. C'est-à-dire, ce qui est très intéressant, c'est ce que l'on fait avec nos assiettes détermine aussi l'état des sociétés humaines et, j'irais, la qualité de vie de ces sociétés humaines. Et que passer au végétarisme, ça a une dimension effectivement éthique, c'est-à-dire qu'on arrête de provoquer autant de souffrance et d'une souffrance inutile d'un point de vue strictement diététique, parce qu'on n'est pas obligé de manger de la viande, ce n'est pas vrai, au profit d'une société qui serait sans doute plus juste et plus enrichissante du point de vue humain. Cette question est vraiment essentielle dans le comportement que l'on doit adopter.
Renan Larue, vous voulez réagir à cet éclairage de Véronique Chansigaud, sur cette question éthique, véritablement, et environnementale. On est obligé, quoi, aujourd'hui, de se poser cette question, en tout cas.
Oui, effectivement, c'est un argument qui est très souvent avancé par les associations véganes ou par les militants véganes. C'est pas eux qui le disent, c'est pas une officine végane extrémiste qui le dit, c'est l'ONU, c'est la FAO, c'est les journaux scientifiques les plus réputés dans le monde. Il y a un consensus scientifique très net, c'est-à-dire que la consommation, qui dit que la consommation de viande, de produits laitiers, provoque un cataclysme écologique. C'est-à-dire que...
On est de plus en plus de monde sur Terre et de plus en plus à consommer...
Oui, c'est-à-dire que ça n'est pas, c'est un modèle qui n'est pas tenable, tout simplement. C'est-à-dire que quand on a beaucoup parlé de la question de la forêt amazonienne dans les années 80-90, je me rappelle très bien de cette époque-là, mais qui détruit la forêt amazonienne ? C'est les gens, les Brésiliens, qui ont besoin de gagner de l'argent en rasant la forêt amazonienne pour faire pousser du soja OGM pour nourrir nos vaches à nous, les Français. Voilà, c'est ça, le véganisme, c'est la prise en compte d'autres choses.
Donc le véganisme, c'est carrément donc ne plus consommer ni de viande, ni aucun produit issu des animaux.
On engraisse nos vaches en France et en Europe, aussi aux États-Unis, avec le soja qui pousse en Amazonie. Quand on refuse de consommer de la viande, du poisson, des produits laitiers, on arrête aussi d'encourager la pêche. Il y a un article qui a fait beaucoup parler de lui dans Science il y a quelques années, qui prédit qu'en 2048, ça va arriver très vite, il n'y aura plus de poissons dans les océans. Il n'y aura plus de poissons dans les océans. C'est l'écosystème le plus riche de la planète. Pourquoi ? Parce qu'on consomme du poisson. La consommation de viande, de produits laitiers, etc., ça implique de détruire énormément de végétaux. On dit, si on est végétarien, il n'y aura plus de place pour faire pousser le soja ou faire pousser le blé, etc. Mais ça, c'est...
Donc ce que vous dites, c'est que vu l'état de notre planète, vu la démographie galopante qu'il y a sur Terre, on n'a pas tellement d'autre choix que de se reposer cette question-là. Mais ce qui veut dire aussi qu'on n'a pas d'autre choix que de faire une révolution végétarienne, enfin un changement total de...
Mais il me semble que dans quelques décennies, ça va être... c'est même pas une question qui va se poser, ça sera de fait. C'est-à-dire qu'on aura besoin de nourrir les gens. Et si on prend un hectare pour faire pousser du soja ou du blé pour nourrir les animaux, c'est du gâchis. Parce qu'avec 10 kilos de céréales, à peu près, on fait un kilo de viande de bœuf.
Là, on marche sur la tête, mais on pourrait vous rétorquer qu'il faut changer de manière d'élever les animaux, qu'il faut revenir à des élevages de taille normale, et que là, dans ce cas-là, c'est probablement viable et jouable comme modèle.
C'est-à-dire que si on a des élevages de à petite échelle, l'élevage à petite échelle ne peut pas nourrir 7, 8 milliards d'habitants sur Terre. Ça n'est pas possible parce que ça prend des surfaces considérables. Si aux États-Unis, par exemple, si les Américains continuent leur consommation de viande et que la viande est produite dans des élevages sympathiques, là, en plein air, il faudrait 8 fois la taille des États-Unis.
Si les Américains se mettent à manger moins de viande.
Il faudrait qu'ils divisent donc par 8 ou 9 leur consommation de viande, effectivement.
En même temps, Thomas Lepelletier, vous entendez évidemment cette question environnementale, mais vous, c'est plus la question éthique en tant que philosophe des sciences ou en tant qu'homme qui doit être en accord avec ce qu'il pense, qui vous titille et qui vous intéresse.
Non, la question environnementale est fondamentale. Et effectivement, c'est peut-être elle qui va jouer un rôle clé dans le déclic qui va peut-être se produire, j'espère en tout cas, qui va peut-être se produire dans les années à venir. Mais il y a toujours dans cette, quand on met en avant cette question environnementale, j'ai toujours un regret, il y a quand même un oubli de la question éthique. Et il y a, à mes yeux, une priorité de la question éthique, puisque quand on est en train de massacrer les animaux, parce que c'est ça, comme je disais, je donnais les chiffres tout à l'heure, il y a du massacre. Alors, on s'alarme devant les dégâts collatéraux, je dirais, de ce massacre avec la déforestation ou la pollution. Mais la première réaction devrait être d'abord d'être choqué par le massacre.
Est-ce qu'on est choqué par le massacre des humains par les autres humains?
C'est comme si on apprenait demain qu'il y avait un massacre dans un pays du monde et quelqu'un venait vous dire, oh là là, il faut arrêter ce massacre d'êtres humains puisque c'est en train, avec tous ces cadavres qui sont dans les rues, ça va polluer les nappes phréatiques de ce pays. Et donc c'est une catastrophe, les rivières vont être polluées. Si quelqu'un venait vous dire ça, vous direz, mais il est fou. D'accord. Et quelque part, non. Si on est en train de massacrer, la première réaction qu'on doit avoir quand on apprend qu'il y a un massacre d'êtres humains quelque part, c'est pas les conséquences écologiques de ce massacre qui devraient nous faire réagir. C'est le fait qu'on est en train de massacrer des êtres humains.
Ce qui devrait nous faire réagir, on a l'impression aussi qu'aujourd'hui, on réagit, mais on ne réagit pas tellement à pas grand chose.
Non, je suis tout à fait d'accord. Mais c'est ça qui est un petit peu, c'est pour ça qu'il faut que la société se réveille de son sommeil dogmatique, un petit peu, où elle a chosifié, comme on disait tout à l'heure, les animaux. Or, en même temps, c'est ça qui est une espèce de paradoxe, où elle chosifie les animaux qu'elle mange, et en même temps, elle reconnaît à tous les autres animaux qu'elle mange pas, que ce soit les dauphins, les baleines, les chats, les chiens, une sensibilité, une émotivité, une intelligence. Donc, cette grande schizophrénie morale qui est en train de se développer, quelque part, ne peut plus tenir.
Eh ben, merci de nous avoir alerté sur cette schizophrénie morale dans laquelle, malheureusement, nous sommes encore tous un peu plongés. Merci en tout cas à tous les deux d'être venus en direct. Je rappelle le titre de vos ouvrages, donc La Révolution végétarienne, Thomas Le Pelletier, qui est paru aux éditions de Sciences Humaines Accent Aigu, et Renan Larue, Le Végétarisme et ses ennemis, 25 siècles de débat, aux Presses universitaires de France. Je crois que vous préparez aussi Le Végétarisme des Lumières, à paraître prochainement. Merci à tous les deux.
Merci.
Autour de la question sur internet, www.rfi.fr.
Demain, on portera notre regard sur des formes de vie que l'on préfère ne pas trop regarder autour de la question pourquoi la pourriture est au cœur même du vivant. Réponse fascinante. Entre le pain, la viande, du porien, la poire et le fromage, tous habités d'étranges moisissures, levures et autres champignons colorés. Un régal à déguster demain. Avec Charles Pélabon à la réalisation et Caroline Fillette en coulisses. D'ici là, amis auditeurs, surtout portez-vous bien. Restez curieux, gardez l'esprit libre et ouvert. Tous les choix sont à vous. Merci de votre fidélité et de votre interactivité. Dans quelques instants, une poignée de secondes, un nouveau journal sur RFI.